Alors, le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles est une association qui a une mission d'intérêt général.
La minute du CIDFF.
De parler de beaucoup de sujets, de beaucoup de thèmes qui sont en relation avec vos missions.
Le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles.
Venir interroger chacun d'entre nous sur nos représentations et puis de pouvoir observer pour pouvoir peut-être bouger les choses.
Sur 48 FM.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre émission La Minute du CIDFF sur 48 FM et on poursuit sur notre thématique femmes et sport, une deuxième partie, toujours avec Valérie Lucas qui est avec moi. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Alors voilà, après avoir parlé de manière globalisée et généralisée il y a deux semaines sur ce thème-là, on va un peu aller dans les détails et définir déjà pour commencer peut-être deux notions par rapport à ce thème femmes et sport, le sexisme et également le sport qui est historiquement masculin.
Oui. Donc du coup, je voulais reprendre cette notion de sexisme qui est définie par le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes en France, qui indique que le sexisme est une idéologie qui repose sur un postulat de l'infériorité des femmes par rapport aux hommes. D'une part et d'autre part, c'est un ensemble de manifestations des plus anodines en apparence, telles les remarques, aux plus graves, telles les viols et les meurtres. Comme l'indique Béatrice Barbus, donc auteure du livre du sexisme dans le sport, le sexisme, c'est pas une abstraction, il se voit puisqu'il se manifeste par des comportements et des décisions qui peuvent être observées de façon objective. Donc on le verra un petit peu plus tard dans cette émission, mais on peut facilement imaginer les comportements. Effectivement, quand Béatrice Barbus dit ce n'est pas une abstraction. Quand on voit des témoignages de femmes qui indiquent des mains aux fesses ou d'insultes, qui les rapportent plutôt à leur rôle de femme au foyer, on a tout de suite compris que le sexisme n'est pas une abstraction. Et ce que je voulais aussi introduire en cette première partie d'émission, c'était pour rappel que le sport, en fait, c'était de corréler en fait la notion de sexisme et puis l'historique du sport qui s'est construit en fait de manière sociologique très masculine en fait, hein, puisque comme on le disait dans la première émission, le sport était là pour construire des hommes, pour en faire des hommes forts. On avait aussi cette notion de virilité. Et du coup, tout était dit pour la place des femmes, des hommes, pardon, dans le sport. Et la contribution du sport masculin à la reproduction de l'hégémonie masculine dans la société est devenue pour certains chercheurs une évidence.
Justement, parlant d'évidence, donc ce lien entre le sport qui est historiquement masculin et le sexisme, le lien, il est évident.
Il est évident. C'est pour ça que je voulais rappeler ces deux notions. Le sport est aussi un domaine dans lequel la violence envers les femmes est encore plus prégnante que dans la société. Parce que pour rappel, hein, on a fait ces émissions aussi pour faire un parallèle entre ce qui se passe dans la société et ce qui se passe dans le milieu du sport. Et ce qui est dit, c'est que comme la culture sportive, c'est la culture de la compétition, c'est la culture de la gagne. Du coup, c'est aussi la culture de cet effort et de la douleur aussi, hein, puisque on s'entraîne, on se fait mal pour parvenir à ses objectifs. Donc en fait, on arrive à ne plus voir certains comportements violents. Et quand il s'agit de femmes, éventuellement des comportements sexistes. Je prendrai pour exemple, si certains l'ont vu, le film Slalom de Charlène Favier, où on voit une jeune skieuse en fait progresser et entamer une relation avec son entraîneur, qui devient en fait une relation toxique, une relation sous emprise, où la jeune femme en fait veut progresser, veut obtenir sa médaille. Et va tomber dans les griffes en fait de son entraîneur sous une prétendue relation amoureuse, mais en fait qui n'est pas consentie. Et ça, on le verra aussi dans la révélation de certaines femmes sportives de haut niveau dès les années 90, début des années 2000.
Oui, un schéma qui se reproduit encore de nos jours. On l'a vu dernièrement avec le patinage artistique. On va en parler là, dans quelques instants. Surtout, le sport, c'est quelque chose de passionné en plus. Tout est amplifié dans le sport.
Tout est amplifié, en fait. Il suffit d'observer l'actualité. Hein. Vous regardez simplement les comportements d'un entraîneur auprès de son équipe de foot. On a envie de cette gagne. On maîtrise pas, en fait, peut-être ses comportements, ses propos. Et effectivement, le sport dans la relation sport sportif entraîneur, dans la relation club public, intra-public, dans la relation avec les arbitres, c'est même à petit niveau, vous allez dans une salle de sport, de hand, de volley, vous observez les comportements, le comportement du public envers les arbitres, le comportement des joueurs envers les arbitres. Enfin, tout est accru, il me semble.
Oui, oui, exactement, y compris pour des enfants.
Des enfants.
C'est terrible de voir ça.
Oui.
Cocorico, première femme qui arbitre un match de Coupe du Monde, elle est française, ça a eu lieu
trois femmes arbitres sur ce match. De ce que j'ai essayé de lire rapidement ou écouter, ça s'est plutôt bien,
passé.
Et tant mieux. Et on espère que c'est une grande brèche ouverte pour la place des femmes dans le sport.
Voilà, il aura fallu attendre 2022 quand même. Ouais. On parlait des problèmes, notamment entre emprise d'entraîneurs sur des joueuses. On l'a vu dernièrement, ça s'est amplifié aussi avec le phénomène MeToo, où la parole s'est un peu libérée, où on a pu être au courant de ces affaires-là, où on ne l'était pas forcément avant. D'ailleurs, il y a des vieilles affaires qui ressortent maintenant parce que la parole s'est libérée.
Tout à fait, il y a des vieilles affaires qui ressortent. Le mouvement MeToo a été un effet accélérateur, mais on avait déjà eu des révélations donc, dans le sport de haut niveau, notamment en athlétisme, avec la lanceuse de marteau Catherine Moyon de Bec dès les années 91. Où on a quand même qui avait révélé des agressions sexuelles lors d'un stage d'athlétisme de l'équipe de France, et on a quand même trois hommes qui avaient été condamnés à 3 ans de prison avec sursis. 2007, moi je m'en rappelle aussi, c'était Isabelle de Mongeau qui était une tenniswoman donc fin des années 90, début des années 2000, qui révèle les viols subis par son coach. Donc on a quelques affaires comme ça qui sortent, et du coup un ministère des Affaires sociales qui lance une étude pour dresser cet état des lieux, et on a fin des années 2010 près de 17% des 1500 athlètes qui sont interrogés pour dresser cet état des lieux qui disent avoir été victimes ou pensent avoir été victimes de violences sexistes et sexuelles. Et du coup effectivement le mouvement MeToo, il y a quelques années, va encore accélérer les révélations. Il y a beaucoup de femmes qui ont parlé, que ce soit à l'international ou en France. Je prendrai l'exemple de la gymnaste américaine Simone Biles, qui a été quadruple championne olympique, qui a été agressée par son médecin, qui avait révélé, mais il y a une certaine omerta, et qui a dû se retirer. Hein. On a dit au JO de Tokyo, elle n'avait pas pu prendre, je crois que c'était la deuxième épreuve de gymnastique où elle ne s'est pas présentée, parce qu'elle devait, elle n'allait pas au mieux mentalement, et elle devait prendre soin de sa santé. Et en fait, c'était ces conséquences des violences qui... elle en est arrivée, je pense, à un certain burn-out et à une incapacité de s'exprimer sportivement. En France, on a eu en patinage, comme vous le disiez tout à l'heure, Sarah Abitbol qui dénonce les violences subies par son entraîneur et toute l'omerta autour du patinage. Il a fallu du temps, il a fallu d'autres révélations. On a eu aussi en équitation Amélie Keguiner, qui était une ancienne cavalière professionnelle, qui a dénoncé des viols subis dans le monde de l'équitation et l'inaction de la fédération. Et elle, en plus, la Fédération française d'équitation a déposé plainte pour diffamation, pour plus tard la retirer. Donc on a quand même...
une globalité des sports qui sont touchés, on voit
qui sont touchés, et avec un mutisme et une volonté de ne pas bouger. On pourrait s'interroger sur ces postures.
Ouais, tennis, gymnastique, équitation, patinage artistique, football. Il y a aussi la natation, je crois qu'il y avait
et la natation,
touchée. La natation, ouais. Aussi. Enfin.
Et récemment, on a l'équipe de football américaine, par exemple, qui a engagé un mouvement pour dénoncer les violences sexuelles et sexistes.
Mmh. Et on a la fédération de foot où le président est dans des affaires. On va suivre pour l'instant. On a l'impression que ça ne va pas aller plus loin alors que ça paraît quand même grave. On a des chiffres par rapport à tous ces faits, Valérie ?
Les chiffres, c'est
les 17% que tu donnais.
C'est les 17%,
ce qui est énorme,
et c'est le fait que on a 48 fédérations qui sont concernées, comme dans le général, on va dire, dans les violences en général, 98% des auteurs sont des hommes, des auteurs de violences, et plus de 80% sont des femmes, avec des agressions qui arrivent aussi dans la minorité, 13 ans, 15 ans. Des mineurs concernés. Donc je pense que cet effet aussi, la révélation des femmes sportives de haut niveau, c'est une chose, mais le sport amateur est largement concerné aussi par ce phénomène.
Est-ce qu'on pourrait se quitter sur une note un peu plus positive ? Est-ce que, je ne sais pas, ça bouge un peu ?
Oui, on peut dire quand même que le sport est quand même un outil d'épanouissement. Je pense qu'il faut finir par cette note-là. C'est un moyen de socialisation. C'est un moyen d'être bien dans son corps. On a l'année dernière la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, qui avait encouragé les fédérations lors de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes à communiquer sur le 39-19. Certains clubs, certaines fédérations ont bien joué le jeu pour communiquer sur ce numéro d'écoute destiné aux victimes et aux témoins de violences conjugales. On a aussi le sport comme vecteur de reconstruction. On a beaucoup d'actions qui sont proposées aux femmes victimes de violences conjugales pour retrouver confiance en soi, qui sont des ateliers souvent qu'on construit entre le milieu du sport et des associations qui accompagnent les femmes victimes. Je prendrai l'exemple de notre CIDFF qui propose des ateliers en lien avec le PGV pour des femmes, dédiées aux femmes et qui sont accompagnées.
C'est quoi le PGV là ?
L'éducation physique de la et gymnastique volontaire, si je ne me trompe pas.
D'accord. Mais merci beaucoup Valérie. On poursuivra avec une troisième partie dans 2 semaines, Femmes et Sport.
Oui.
Qui concernera ?
Je pense qu'on abordera la place des femmes dans les instances.
Très bien, merci.